Aujourd'hui, je reçois Fanny Jedlicki, maîtresse de conférences en sociologie et en poste à l'Université Rennes 2 depuis 2 ans. Si on échange aujourd'hui, ça n'est pas pour évoquer vos sujets de recherche, mais bien la situation critique dans laquelle sont maintenues les universités françaises et plus largement l'enseignement supérieur. Merci de prendre le temps de bien vouloir répondre à mes quelques questions afin de comprendre pourquoi la situation est si critique à l'heure actuelle et pourquoi les réponses apportées par le gouvernement ne sont, dans le meilleur des cas, pas à la hauteur, sinon inexistantes. Bonjour à vous.
Bonjour.
On peut commencer, je pense, par une petite brève d'actu. Je ne vous apprends rien, mais en début de semaine, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, invité de Jean-Pierre Elkabbach sur CNews, déclarait s'inquiéter de la propagation des idées et recherches menées par le militantisme de l'islamo-gauchisme. Une déclaration qu'elle a affirmée devant l'Assemblée le lendemain en annonçant qu'elle comptait demander au CNRS de lancer une enquête qui fasse le bilan des recherches universitaires menées dans le pays. Alors, sous couvert de lutter contre la radicalisation, la ministre saute à pieds joints dans l'amalgame, utilisant sans souci un vocabulaire cher à l'extrême droite. Ses déclarations dénonçant un islamo-gauchisme qui gangrène les universités, comme a titré le Figaro, ont provoqué un tollé parmi les universitaires et les étudiants également. La conférence des présidents d'université, la CPU, a fermement condamné ces propos en parlant d'une polémique stérile. Qu'est-ce que, selon vous, cela traduit de la perception de l'université par le gouvernement, de la considération pour la recherche universitaire? Qu'est-ce qui vous inspire ces propos?
Moi, je suis atterrée, hein, comme la plupart de mes collègues, comme la majorité d'entre eux. Je suis atterrée, je suis abasourdie, et en même temps, je suis peut-être pas complètement étonnée, malheureusement, de ce qui semble être une stratégie électorale de la part de l'ensemble du gouvernement. Hein. On a vu les manœuvres de Darmanin la semaine dernière. C'est pas nouveau, ces accusations d'islamo-gauchisme à l'université, ça a été enclenché par le ministre Blanquer. Macron lui-même avait parlé de l'ethnicisation de la question sociale. C'est très problématique parce qu'évidemment, l'islamo-gauchisme n'est absolument pas un concept scientifique, c'est une terminologie effectivement qui est ancrée dans l'extrême droite, qui essaye de se faire passer pour quelque chose de plus sérieux et qui, comme l'a dit la CPU, hein, qui n'existe pas dans nos univers. Mais au-delà de ça, c'est la manœuvre qui est grave. Et la manœuvre, elle consiste à essayer, je crois, hein, comme d'autres, d'aller récupérer des voix à l'extrême droite. Et or, elle contribue, à mon sens, non pas à récupérer des voix, mais à accroître une forme de fascisation des esprits. Et c'est un vrai problème. Et c'est grave, c'est très grave.
Donc, à travers sa déclaration, il s'agit de contraindre, de contrôler la recherche universitaire. Moi, ça me fait penser que ça rejoint une inquiétude qui ressortait également à propos de la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, une loi qui a été adoptée sans tenir compte des concertations et contre l'avis majoritaire des universitaires. Cette loi, elle a été promulguée fin décembre. Elle précarise la recherche, en réduit sa diversité, en favorisant des partenariats publics privés, des financements issus des entreprises privées. Donc une recherche qui pourrait être orientée au détriment notamment des sciences humaines et sociales. Donc j'en profite pour vous demander, on en est où de cette LPPR et de son application prochaine? Qu'est-ce que l'on doit craindre comme impact de cette loi dans une université tournée vers les sciences humaines et sociales, comme à Rennes 2 par exemple?
Vous avez raison, hein. Il y a un lien, ne serait-ce que autour de la réduction des libertés académiques, qui a existé. Alors je dis « a » parce que on ne sait pas très bien où on en est entre l'abrogation d'un amendement ou qu'il soit vidé de sens, mais au moment où la LPPR a été adoptée, disons revue par le Sénat, il y a eu des amendements visant à restreindre les libertés académiques, notamment des enseignants-chercheurs et des chercheurs. On peut dire que la liberté, plutôt l'autonomie réelle de la recherche, l'autonomie scientifique, l'autonomie de la raison, c'est-à-dire le fait que les sujets de recherche, les méthodes de recherche, les objets de recherche sont définis par des chercheurs, elle est de toute façon restreinte depuis un moment et de plus en plus inféodée aux politiques. Elle l'est par les institutions qui existent autour de l'université et de la recherche, et elle l'est par les financements, évidemment, parce que lorsque vous n'avez plus de financement du tout, ou quasiment pour des travaux qui sont définis par le champ académique, mais des financements qui sont octroyés sur des sujets délimités, vérifiés avec des panels d'évaluateurs, on va dire, ou des institutions qui les choisissent, qui ont en tête d'autres types d'indicateurs que la seule académie. On est déjà dans quelque chose de très contraint. Bon, ça, c'était le préambule, on va dire. Et pour le reste, la LPPR, elle est adoptée, elle suit son cours. On ne sait pas très bien ce qu'il en est. C'est-à-dire que va-t-il se passer au niveau des recrutements cette année à l'université on ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir les premières chaires d'excellence enfin, c'est pas le terme, mais pour nos collègues sans poste, ce qu'on appelle les non-titulaires ou les précaires, encore une fois, c'est-à-dire qui n'ont pas d'emploi fixe. Bon, c'est très compliqué en ce moment, ça l'est d'autant plus que, vous le savez bien, les étudiants le savent encore mieux que nous, la situation, elle est dramatique et on est en train de s'occuper d'autre chose. Et on n'a pas de moyens non plus pour tout ça. On n'a absolument aucun moyen pour contenir, pour mettre en place des mesures sanitaires qui soient convenables pour accueillir les étudiants. Donc, c'est assez dramatique tout ce qui se passe en ce moment.
Vous l'avez dit, cette LPPR, elle concerne donc aussi, elle précarise davantage les précaires et les non-titulaires. D'ailleurs, pour quantifier les besoins, l'intersyndicale plaide pour la création d'un plan pluriannuel de recrutement de 65 000 postes titulaires sur 10 ans, dont 8 500 créations de postes pour l'année 2021 pour l'ensemble de l'enseignement supérieur. Je vous demande ça parce que vous êtes enseignante. Quel est concrètement l'état actuel de l'enseignement supérieur? Je veux dire, vous qui enseignez, quel manquement, quelle limite s'installe, s'ancre dans le fonctionnement de l'université? Quelle difficulté cette dégradation continue des conditions d'exercice? Cela engendre dans l'enseignement universitaire public tel qu'il devrait exister normalement.
Alors moi, j'en peux dire que je suis à l'université depuis toujours, puisque j'ai été étudiante et ensuite enseignante-chercheur, enfin depuis toujours après le bac. Je suis effectivement à Rennes 2 depuis 2 ans. J'ai été recrutée en 2010 à l'université du Havre et puis moi-même, au moment où je faisais ma thèse et puis de la fin de thèse à mon recrutement, j'ai eu des postes de vacataire, de contractuel d'enseignement. Donc on peut dire que je suis à l'université côté enseignant et côté recherche depuis une quinzaine d'années. Ce que l'on voit depuis une quinzaine d'années, et effectivement la LPPR s'inscrit dans une autre série de réformes, elle n'est pas complètement nouvelle, loin de là. Elle emprunte d'une part à la réforme de la fonction publique, et donc au non-remplacement d'un fonctionnaire, d'un départ à la retraite sur deux, pour dire d'une manière très rapide encore une fois, et elle emprunte à la LRU, mais aussi aux lois Fioraso de 2013. Voilà, une réforme d'ampleur de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et ce que l'on voit depuis cette même quinzaine d'années, ou cette vingtaine d'années, disons une quinzaine d'années, depuis 2007, avec la LRU, c'est l'augmentation démographique du nombre d'étudiants et d'étudiantes, et c'est dans le même temps la diminution drastique du nombre de personnels, enseignants, chercheurs, mais aussi personnels administratifs, techniques, ouvriers et autres, qui font tourner l'université. Le premier manquement, je dirais, il est malheureusement financier. Et financier, cela veut dire aussi des salaires, et donc cela veut dire des postes. Donc on a un manquement humain qui est énorme. Alors même que l'on accueille de plus en plus de jeunes gens et que les injonctions à la réussite sont très fortes et que ces mêmes jeunes gens ont, et ils en ont bien raison, des attentes fortes envers l'enseignement supérieur dans un contexte de chômage pérenne et de précarisation des emplois de façon générale. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de tâches qui étaient exécutées autrefois et partagées par d'autres travailleurs, travailleuses de l'université incombent aux mêmes personnes de manière permanente. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on accueille, par exemple, dans des groupes de TD, alors même que l'on appelle à une réduction des effectifs pour des raisons pédagogiques et de meilleure réussite étudiante, ils sont de plus en plus nombreux. Et cela signifie que, par exemple, en sociologie, où on doit accompagner des mémoires, on a un nombre faramineux et qui augmente chaque année d'étudiants que l'on doit suivre, Ça se traduit par quoi? Ben, ça se traduit par un sentiment pour les personnels d'avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir faire un travail de qualité face à des ressources qui diminuent. Et donc, cela veut dire aussi ben, des gens qui craquent, des situations de burn-out, des tensions fortes. Cela veut dire que, enfin, c'est terrible à dire, hein, mais qu'on n'a pas les moyens, objectivement, de faire les choses convenablement.
Tout cela, en plus, inscrit dans un contexte tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, comme beaucoup d'enseignants et d'enseignantes, vous êtes fréquemment mobilisés ces derniers temps, notamment aux côtés des étudiants et des étudiantes, cette génération sacrifiée qui exprime son ras-le-bol des conditions de vie et d'études à distance. À ce jour, les campus rouvrent progressivement, de manière inégale d'un établissement à l'autre. Un retour en présentiel pourtant demandé par une majorité d'étudiants pour qui les cours à distance sont un calvaire. Moi, je me demandais, d'un point de vue enseignant justement, à quoi ça peut ressembler ces cours en ligne depuis des semaines et des semaines, des journées derrière l'ordinateur. Est-ce que ça peut être aussi un calvaire ?
Oh oui, ça l'est, ça l'est. Bah, c'est très prenant en termes de concentration. Moi, je me rends compte pour avoir enseigné évidemment cette quinzaine d'années de manière normale. Je fais exprès de dire de manière normale parce que je suis impressionnée de notre façon d'avoir assimilé ce nouveau vocabulaire de présentiel et distanciel. Cognitivement, c'est très prenant. Moi, je sors de mes sessions de cours de 2 heures que j'ai raccourcies en tenant compte des consignes qui ont été données à Rennes 2 où je pense que l'établissement essaye vraiment d'accompagner au mieux ses étudiants et personnels dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire avec quasiment pas de ressources supplémentaires ni de moyens supplémentaires. C'est difficile parce qu'on n'a plus du tout les signes que l'on percevait par des regards, par des visages, par voir les regards des étudiants qui se voilent ou des phénomènes d'inattention. Donc on ne sait pas très bien si ce que l'on dit, ce que l'on fait, est bien compris, est bien suivi, toujours aussi des préoccupations fortes. Hein, les casquettes du métier changent, on demande des nouvelles en permanence, en tout cas, c'est ce que je fais, aux étudiants, on s'inquiète, on ne sait pas très bien non plus comment répondre aux difficultés qui sont là. Et puis, je pense que ce qui nous mine tous et toutes, c'est le sentiment que... On n'a pas de date pour savoir quand les choses vont s'achever. Et puis, ce que je veux dire, c'est que c'est un cours, mais c'est tout ce travail invisible pour les étudiants. Et c'est normal, hein, c'est ça le travail pour des usagers. On n'en voit pas les coulisses, mais c'est un certain nombre de réunions, de mails, de coups de téléphone toute la journée, derrière l'écran, de manière continuelle également. Et c'est faire, défaire, refaire des nouveaux protocoles d'accueil, essayer d'imaginer un suivi à distance. Ce qui me perturbe beaucoup depuis le début de tout ce qui se passe, c'est que j'ai la sensation que il y a une pandémie mondiale, il y a eu un arrêt très conséquent, en tout cas il y a aujourd'hui un ralentissement très conséquent de l'économie, un arrêt complet de la culture. Et en fait, on continue à faire comme s'il fallait, malgré tout, dans des conditions extrêmement dégradées, quasiment sans moyens supplémentaires, en tout cas du point de vue des universitaires. Mais je crois que c'est le cas à l'école, hein. Apparemment, Blanquer va réduire la voilure à nouveau dans le secondaire en termes d'enseignants. Et on fait comme s'il fallait continuer à tout prix de produire des diplômés, de notre côté des recherches, des articles, etc., etc., alors que nos conditions se sont extrêmement dégradées. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions sur la. Alors, je sais pas, j'ai pas de réponse hein, sur qu'est-ce qu'il faudrait y faire, mais je pense qu'on aurait tout intérêt à réfléchir, à faire comme si de rien n'était, alors qu'on sait tous que rien n'est comme d'habitude, mais à poursuivre des objectifs de rendement, on pourrait le dire dans une certaine mesure.
Je poursuis un petit peu sur cette situation de l'université dans le contexte actuel. Plusieurs enseignants de divers établissements avaient exprimé publiquement leur demande de réouverture des campus en amont de celle-ci pour rétablir un contact avec les élèves, vous en parliez, restaurer des conditions d'études et un suivi pédagogique correcte. Et en ce sens, certains avaient bravé les interdits en dispensant des cours dans les salles de classe alors que c'était interdit. Vous, de votre point de vue, que pensez-vous de cette réouverture si tardive des campus quand les classes prépa, notamment, ont maintenu l'essentiel de leurs cours en présentiel depuis novembre? Est-ce que peut-être cette réouverture, elle était envisageable plus vite avec un protocole sûr et des moyens concrets pour assurer cette réouverture?
Bah, sans doute. Sans doute. En tout cas, il ne faut pas s'étonner hein, du traitement inégalitaire dans l'enseignement supérieur. Ce traitement inégalitaire, c'est une constance. Hein. On est dans un enseignement supérieur à 2, voire 3 vitesses. Et voilà, et les réponses qui ont été apportées, le traitement qui est apporté pendant cet épisode extraordinaire est du même tonneau. Dès lors qu'on ne s'est pas intéressé à la question universitaire, et là encore, ne soyons pas étonnés, ça fait un bon moment que... Je ne dis pas qu'on ne s'y intéresse pas, mais qu'on la néglige. En fait, moi, sincèrement, à mon sens, tout est fait comme si... Et ce n'est pas dans une idée complotiste, c'est-à-dire que ce n'est pas machiavélique. Mais l'enseignement et la santé, l'éducation et la santé, étaient, en France, le domaine pour le privé, à privatiser. Il y a, il y a 20 ans, on va dire. Aujourd'hui... De manière concomitante à cet emballement démographique des étudiants, à cette diminution des personnels, à cette diminution du coup de la qualité de vie, enfin la qualité de manière générale dans les établissements du supérieur, mais comme dans le secondaire aussi, qu'est-ce qu'elle entraîne mécaniquement ? La privatisation, c'est-à-dire on a une offre privée à côté qui se développe, et qui dit offre privée dit coût. Et qui dit coup, dit à nouveau reproduction des inégalités pour ceux qui n'en ont pas les moyens, pour celles qui n'en ont pas les moyens. Mais s'ils n'en ont pas les moyens, qu'est-ce qui leur est proposé? Et quelles sont d'ailleurs les réponses en ce moment que le gouvernement essaye de proposer pour la crise des jeunes? Là, il ne parle même pas que des étudiants en général. C'est l'emprunt, c'est la dette. Et je crains, moi, que l'on arrive à effectivement ce qu'un certain nombre de collègues ont expliqué depuis le début, hein, c'est-à-dire que... La LPR, toutes ces réformes, qu'on en arrive à l'augmentation des frais d'inscription des étudiants, qui est une manne quand même extraordinaire si on regarde de quel type de somme on parle dans la situation quand même qui n'est pas très lointaine de la nôtre, qui est la Grande-Bretagne. Si on regarde les structures, si on regarde le temps long, tout ça n'est pas bien étonnant. Et donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de volonté publique de faire, continuer de faire plutôt, parce que des universités françaises, un lieu d'enseignement de qualité, un lieu de recherche de qualité, d'épanouissement aussi de jeunes gens et de moins jeunes pour la formation continue et tout au long de la vie, et que ce n'est pas souhaité. Et je pense que c'est très regrettable, et je pense que c'est dramatique, parce que je pense que ce sont des lieux qui ont, et qui même, je pense, continuent à l'être, en dépit de tout, hein, par la bonne volonté aussi et des personnels et des étudiants, et le surtravail, et les efforts qui sont faits, et l'adaptation. Mais je pense que ce sont des lieux de savoir ou des recherches de qualité qui ont fait aussi l'attractivité de la France pendant longtemps, et notamment en sciences humaines et sociales, pour rejoindre... Une des questions que vous m'avez posées, qu'on est en train de laisser de côté un univers. Et à mon avis, la France, et même celle qui a à cœur des intérêts financiers, des intérêts économiques, des intérêts de rendement et de classement, va y perdre. Voilà, donc si vous voulez, moi je suis abattue, abasourdie, en colère et en même temps pas étonnée.
J'avais juste 2 questions pour terminer. L'idée de cette réouverture, pour terminer sur cette réouverture, c'était en plus de reprendre quelque chose qui ressemble vraiment à une formation universitaire pour les élèves, c'est aussi de rompre l'isolement qui les frappe grandement depuis fin octobre, rétablir malgré le masque et la distanciation sociale de vrais échanges constructifs, interactifs entre élèves et enseignants, un isolement qui en plus cumulé à des cours en ligne qui s'éternisent, des difficultés de connexion et une précarité financière importante pour certains, a conduit parfois au décrochage de certains d'entre eux qui ont perdu le rythme, la motivation, jusqu'à envisager une réorientation. Ma question, c'était, est-ce que vous, en tant qu'enseignante, avez-vous été confrontée à ce genre de situation? Est-ce que vous avez échangé avec certains élèves particulièrement isolés ou en difficulté de tout type qu'elles soient?
Bah, c'est compliqué parce que par nature, lorsqu'on on fait cours à distance, on s'adresse à ceux qui sont là derrière l'écran a priori. Donc c'est très très compliqué à évaluer là. Voilà, au moment où où notre entretien a démarré, en tout cas où l'heure était en train d'arriver, j'étais justement en train de rédiger un mail où je comptais les étudiants, les étudiantes d'un TD que j'ai pour demander à notre administration si on a des nouvelles d'eux, s'ils sont assidus, non assidus, en termes d'inscription, etc., etc. Donc, individuellement, pour les enseignants, c'est extrêmement compliqué de savoir. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se rendre disponible, c'est ce que je vous ai dit, et c'est des vraies questions. Hein. Là, pour l'instant, on est peu à se le demander, parce que il y a toujours cette démarche, je pense, dans ce métier qui fait que le lien avec les étudiants est très important. Mais dans une certaine mesure, et je le dis de manière provocatrice, mais c'est important, encore une fois, pour qu'on prendre cette question d'absence de moyens. Nous, enseignants, on n'est pas psychologue, on n'a pas de formation pour cela, on n'est pas assistante sociale, on n'a pas de formation pour cela, on n'a pas de compétences, on ne sait pas quels sont les dispositifs pour réorienter. Et en ce moment, il est attendu de nous, dans une certaine mesure, que l'on puisse avoir toutes ces casquettes. Donc, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des collègues qui le vivent particulièrement mal, parce que lorsqu'on n'a pas les compétences, eh ben, on est soi-même très démunis, parfois, pour répondre à des demandes. Donc, concrètement, non. Moi, je n'ai pas eu, en ce moment, a priori, ce type de questions, mais j'ai décidé... Comme tous mes collègues, hein. Et je le fais, je passe beaucoup plus de temps à échanger par mail ou en ouvrant des salles virtuelles ou en donnant des tas de rendez-vous ou en prenant du temps après les cours en laissant la caméra allumée auprès des étudiants pour les questions qu'ils se poseraient, qu'elles soient des questions sur la nature de leur cours, sur leur choix d'orientation ou autre. Et ceux qui ont lâché, ils ont par nature lâché, donc on a déjà plus de lien avec eux en fait. Et surtout si ce lien est aussi tenu à l'heure actuelle qu'une connexion. Et donc, peut-être certains, ils ont lâché parce qu'ils n'ont pas de connexion. Donc, ou une connexion très, très... Donc, c'est très compliqué. En tout cas, on a tous appris sur le tas, là, en ce moment. Et si c'était pour nous faire apprendre le distanciel, bon, bah voilà, c'est fait. Hein.
Une dernière question, rapidement, c'était... là, on parle des difficultés d'études pour les étudiants, le travail aussi à distance pour les enseignants. Mais c'est aussi un télétravail qui s'est généralisé pour le personnel de l'université et... notamment le personnel non enseignant, c'est-à-dire les BIATS. Je voulais savoir si, voilà, à la réouverture progressive de la fac, donc les bibliothécaires sont de retour, les personnels de santé, eux, n'ont jamais quitté les locaux puisque le SSE est resté ouvert. Mais pour les autres, voilà, qui télétravaillent ou qui travaillent moins, est-ce que vous avez une idée, vous échangez avec eux sur leur ressenti, leur situation vis-à-vis de cette crise sanitaire actuelle qui les impacte également dans leur travail?
Bah, de manière très interindividuelle avec des personnes que l'on croise dans le travail, enfin que l'on croisait, on va dire, là, que l'on croise virtuellement, et de manière peut-être plus collective dans les formes d'échange de personnel mobilisé, ou en tout cas là pour le dire autrement, de personnel qui se pose des questions devant tout ce qui se passe. J'ai eu quelques infos, mais assez peu. Donc, je voudrais pas prendre la parole pour ses collègues et l'usurper. Mais si j'ai bien compris, évidemment, ne serait-ce parce que c'est un travail qui est en tout cas moins perçu comme honorifique et essentiel que la tâche de délivrance des diplômes et des savoirs et des connaissances, mais qui est absolument nécessaire, fondamental au fait que cette tâche se déploie et se déploie convenablement. Je crois que c'est très 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 compliqué aussi pour eux, qu'il y a des formes peut-être des manques de reconnaissance parce que des salaires qui suivent moins on le dit peu aussi, on le sait peu, mais la précarité, les problématiques de moyens et donc le manque de ressources humaines, elle démarre généralement par les personnels non enseignants. Ça a démarré par là. Donc, eux-mêmes sont face à un turnover et à beaucoup de vacataires et de contractuels qui rendent aussi le travail très compliqué dans son organisation et son déploiement. Et j'imagine des questionnements aussi hein, sur si c'est bien sûr, parce que on se pose quand même des questions avec cette crise sanitaire, sur son degré d'exposition.